France Culture.
Territorial et militaire, le maintien du lien transatlantique pose question au vieux continent. Dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine, la menace russe, l'offensive commerciale de la Chine et la faiblesse du tandem franco-allemand, l'unité européenne est mise à l'épreuve. Certains désaccords entre différents chefs d'État ont notamment été mis en lumière lundi dernier à Bruxelles, lors d'une réunion informelle au sujet de l'Europe de la défense. Les États-Unis, historiquement alliés, s'opposent de manière de plus en plus radicale à l'idée même de l'Europe. Face à l'impérialisme américain, comment l'Europe peut-elle donc riposter afin de défendre ses intérêts? Est-elle capable même de se réveiller? Pour en discuter, pour en débattre même, deux invités ce soir. Clément Beaune, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien conseiller Europe à l'Elysée, vous êtes ancien ministre délégué chargé de l'Europe. C'était entre 2020 et 2022. Vous avez été ministre des Transports. C'était entre 2022 et 2024. Et vous avez publié hier votre dernier ouvrage intitulé « Je dirais malgré tout que la politique est belle ». C'est aux éditions Stock. Face à vous, Céline Spector, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités à Sorbonne Université. Vous êtes spécialiste de philosophie politique et de démocratie européenne. L'un de vos derniers ouvrages paru en 2021 est intitulé « Nos démos, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe ». C'était aux éditions du Seuil. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Questions du Soir.
Le Royaume-Uni dépasse les bornes, mais je suis sûr que l'on peut trouver une solution. Mais l'Union européenne est une atrocité. Le Premier ministre Starmer a été très gentil. Nous avons eu quelques réunions et de nombreux appels téléphoniques. Nous nous entendons très bien et nous verrons si nous pouvons équilibrer notre budget. En ce qui concerne l'Union européenne, c'est 350 milliards de déficit. Il est donc évident que quelque chose va se mettre en place.
Donald Trump qui s'exprimait sur le tarmac, c'était dimanche 2 février à sa descente de l'Air Force One. Et peut-être pour commencer, tenter de qualifier la relation nouvelle entre l'Europe et ce président, la relation nouvelle entre l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis sont-ils encore des alliés et des concurrents, comme c'est le cas historiquement, ou sont-ils en train de devenir des adversaires, Céline Spector?
Alors écoutez, je pense que c'est la notion même d'alliance qui est remise en question en réalité. Pour qu'il y ait alliance, il faut qu'il y ait une forme de loyauté particulière qui ne se réduise pas à un bilan comptable. Lorsque l'on commence à réfléchir aux relations de partenariat en termes de déficit de la balance commerciale, effectivement, on ne parle plus d'alliance au sens géopolitique ou politique du terme. Donc effectivement, ça nous oblige, nous Européens, à repenser à notre philosophie des relations internationales. On avait l'habitude de vivre sous parapluie américain pour la défense. On avait l'habitude d'avoir un allié sur lequel on pouvait plus ou moins compter. Bah écoutez, maintenant, effectivement, il va falloir qu'on repense notre relation transatlantique. Peut-être y a-t-il un nouveau pacte de Varsovie à l'horizon.
Clément Beaune, on a l'impression qu'à l'inverse, dans le champ politique, notamment dans le champ diplomatique également, que ce terme d'allié, on a du mal à l'abandonner, on a du mal à qualifier autrement notre relation avec les États-Unis.
Oui, c'est normal, vous disiez quelle est la nature de la relation. Alors, on va la redécouvrir, puisqu'on a connu Trump 1 et on semble... redécouvrir des mots que nous avons entendus en réalité sous le premier mandat de Donald Trump sur le volet commercial. Le son que vous avez diffusé, si vous ne m'avez pas donné de date, j'aurais pu penser qu'il datait de la période du premier mandat entre 2016 et 2020, puisque sur ce plan-là, c'est probablement pire sur d'autres sujets, mais sur le plan commercial, déjà Donald Trump, je ne sais pas s'il disait atrocités, mais il disait que l'Union européenne c'était très mal, que les Allemands vendaient trop de choses, qu'on exportait beaucoup et que eux n'exportaient pas chez nous, etc., etc. Donc dire ça, on y reviendra peut-être, on pouvait s'y attendre et on aurait dû, je pense, davantage s'y préparer. Ce qui est plus nouveau, même si je pense que tout ne commence pas avec Donald Trump et malheureusement tout ne se finirait pas avec le deuxième mandat de Donald Trump, l'évolution de la relation entre l'Europe et les États-Unis, notamment sur le plan stratégique militaire, était déjà en cours. Le fait que les États-Unis intéresse beaucoup plus à la Chine qu'à l'Europe, à la menace chinoise qu'à la sécurité européenne, s'intéresse en réalité, même si Joe Biden était peut-être un peu une exception de ce point de vue-là, à la question ukrainienne pour se focaliser sur des sujets comme Taïwan, beaucoup plus. Ça, c'est pas nouveau. Il y a une forme d'accélération, de brutalité ou de brutalisation avec Donald Trump. Et je suis d'accord avec ce que disait à l'instant Céline Spector, c'est que l'alliance, c'est pouvoir compter sur quelqu'un, c'est pas l'amitié. C'est pouvoir compter sur quelqu'un face aux pires menaces qu'on affronte ensemble. Et d'ailleurs, penser que les menaces sont communes. C'était effectivement notre regard d'Européens depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En France, j'allais dire, on est peut-être moins percutés que les autres parce qu'on avait à tort ou à raison, et avec peut-être parfois un excès de gaullisme dans le discours, mais on avait l'idée qu'on était souverain, au sens où on était indépendant, autonome, qu'on n'avait pas besoin des Américains parce qu'on est une puissance nucléaire et d'autres caractéristiques. Pour un Estonien, pour un Letton, pour un Polonais, c'est pas complètement nouveau parce qu'on a vécu des chocs américains ces dernières années, mais enfin c'est quand même un choc majeur de se dire que s'il y a une attaque militaire, peut-être que les Américains sont pas à notre côté. À nos côtés. Et ce qui s'est passé, même si on verra ce que ça donne, avec la menace, en tout cas sur le Groenland, c'est quand même l'idée qu'on pourrait se retrouver, c'est plus de la science-fiction aujourd'hui, dans une situation où on a une menace russe d'un côté à l'est et au nord-ouest, des soldats américains qui cherchent à envahir un territoire européen. C'est quand même fou.
Bon, mais alors je repose ma question pour tenter de qualifier la nature de cette relation. Est-ce que vous-même, Clément Beaune, vous arriveriez à abandonner ce terme d'allié? Les États-Unis sont-ils encore des alliés aujourd'hui, des alliés objectifs?
Moi, je renonce pas au terme d'allié parce que, d'abord, je pensais pas à nous, si je puis dire, de commettre la faute, de dire nous ne serions plus loyaux. Il ne faut pas être soumis, mais loyaux parce qu'on a des pactes qui nous relient juridiquement, politiquement, notamment celui de l'OTAN. La France en est membre, avec ses particularités, on le sait. Mais je pense que si surtout, d'ailleurs, un responsable politique français disait à ses petits camarades européens « on n'est plus dans une alliance », Washington et les autres capitales européennes diraient « vous voyez, c'est vous qui, en quelque sorte, détricotez les liens ». En revanche, qu'on soit conscient plus vite que jamais et plus fort que jamais que si on n'a pas la capacité à agir nous-mêmes en matière de défense, à être ferme avec les Américains, ça sera valable aussi sur le plan commercial, et qu'on doit renforcer nos outils d'Européens, là on ferait une faute, et je pense qu'il faut qu'on soit des alliés autonomes, lucides et prêts à comprendre que à la question « les Américains viendront-ils nous sauver si besoin ?», la réponse aujourd'hui n'est plus évidente ou elle est évidente dans l'autre sens.
Céline Spector, vous êtes d'accord avec cette approche générale? Ce n'est pas à nous de commettre la faute, de détricoter les liens et j'allais dire d'abandonner ce terme d'allié objectif?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Clément Beaune. Alors moi, je voudrais peut-être revenir un peu sur la formation de l'Union européenne et de ses ambitions dans ce rapport transatlantique. Parce que c'est quand même important de comprendre que l'Union européenne, et d'abord les communautés économiques européennes, et avant même la communauté économique charbon-acier, s'est créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec un objectif de pacification du continent, de réconciliation de l'Allemagne et de la France notamment, et que les États-Unis ont très vite compris qu'ils avaient un intérêt direct à cette construction européenne. Ils ont beaucoup favorisé la construction européenne. La menace communiste apparaissait à ce moment-là. Et donc, en réalité, pendant très longtemps, les Américains ont été très favorables à cette construction. C'est-à-dire qu'on n'était pas seulement des alliés sur le plan de l'OTAN, on était fondamentalement des alliés dans le projet philosophique et politique que j'appelle avec d'autres l'utopie réaliste européenne, établir la paix perpétuelle sur le continent. Et donc, je pense que là, on est dans un changement d'air, hein, une sorte de révolution, un nouveau paradigme apparaît, où tout d'un coup, on est considéré comme effectivement une atrocité. Alors, c'était déjà vrai, hein, vous l'avez dit Clément Beaune, à certains égards dans le premier mandat Trump, mais là, c'est quand même encore plus fort. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de bascule complète, en fait, de notre relation. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une rhétorique impériale? Est-ce qu'il s'agit, en réalité, simplement d'une sorte de parade d'intimidation, de verbe haut qui, finalement, vise simplement à renégocier? Ça, c'est ce qu'on saura bientôt.
Mais pour bien comprendre ce que vous êtes en train d'expliquer, Céline Spector, est-ce que vous nous dites là qu'il y a, j'allais dire, dans l'ADN de l'Union européenne, parce que ça fait partie de son histoire, dans ses règles même, dans sa façon de penser le rapport aux autres, le rapport à la régulation à l'intérieur de ses frontières, une incapacité à penser peut-être un nouveau rapport aux États-Unis, un rapport plus, j'allais dire belliqueux, c'est pas le bon terme, mais en tout cas plus un rapport d'adversaire?
Alors, je ne pense pas, mais je voudrais un peu revenir sur la manière dont l'Union européenne, pendant un certain temps, a conçu les relations internationales. Il y avait un grand modèle qui était, on pourrait dire, le modèle kantien, donc Emmanuel Kant au XVIIIe siècle. L'idée qu'on allait faire une sorte de fédération d'États libres et républicains qui allait s'associer volontairement et qui allait construire la paix, pas seulement en Europe, mais dans le monde.
Le fameux cosmopolitisme.
Le cosmopolitisme. Et si on regarde, par exemple, l'article 21 du traité de Lisbonne, on voit que la politique européenne de sécurité, de défense commune, elle est orientée par le maintien de la paix, elle est orientée par la coopération internationale, par la solidarité internationale, la promotion de la démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On est vraiment dans une logique qu'ancienne. Pendant très longtemps, les observateurs ont dit, comme Robert Kagan, par exemple, aux États-Unis, oui, alors, l'Europe peut se permettre d'être qu'ancienne parce que l'Amérique reste obscienne. Elle, elle vit dans l'état de nature qui est un état de guerre de tous contre tous. Elle patauge dans la boue de l'histoire, un peu comme elle patauge en Irak. Et nous, effectivement, en Europe, on peut parader derrière nos grands principes parce qu'on a quand même ce parapluie militaire américain. Je crois qu'aujourd'hui, on va devoir, nous aussi, un peu patauger dans la boue. Hein, c'est déjà le cas pour les Ukrainiens. Et je pense que ça va nous obliger à une révolution, une sorte de conversion mentale, peut-être une révolution copernicienne.
Alors Clément Beaune, est-ce qu'il faut pousser l'Europe dans la boue et lui apprendre à patauger ?
La boue est là, donc il faut qu'on arrive à patauger le mieux possible. Je suis complètement d'accord. Alors, c'est une philosophe, je suis prudent dans mes références. Mais pour diversifier les références, je dirais juste qu'on avait un peu le modèle partagé, d'ailleurs, entre Washington et les capitales européennes, du doux commerce après la guerre. Tout le projet européen était tourné vers l'interne. Pour le dire moins élégamment, vers la réconciliation entre nous, vers le fait de retisser les fils d'un continent qui s'était entre-déchiré, entre-tué, etc.
Vers l'intégration.
Vers l'intégration. Et c'est déjà une belle réussite. Moi, je ne voudrais pas qu'on oublie tout ça. C'était presque un miracle européen, sur le plan économique, on l'a beaucoup dit, mais aussi sur le plan politique, par l'économie, par le commerce, d'arriver à retisser les premières communautés, c'est 5 ans seulement après le drame de la Seconde Guerre mondiale et la fin de la guerre, des liens entre la France et l'Allemagne, des liens entre les 6, et l'élargissement qu'on a beaucoup critiqué en France, a été aussi une démonstration d'attractivité, de pacification à l'européenne. Et puis, c'était un modèle où tout ce qu'on reproche à l'Europe aujourd'hui, c'est-à-dire d'être un peu molle, d'être un peu longue, d'être un peu procédurale, et je suis le premier à le dire, on va y revenir, c'est aussi parce que le projet était fait pour être comme ça. C'était un projet de non-puissance. Parce qu'on s'est dit, les Européens, quand on leur a donné de la puissance ou qu'ils en ont eu, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont colonisé le reste du monde, ils ont été agressifs, et puis après, ils se sont entretués dans les deux guerres civiles, en réalité, de 14-18 et 39-45. Donc c'était, il faut quand même l'avoir en tête, fait pour être long, compliqué, juridique, non hégémonique, la communauté européenne, puis l'Union européenne. Alors aujourd'hui, on nous dit, bah oui, mais vous êtes à côté de la plaque, pour reprendre l'expression du président Trump, parce que le monde, c'est pas ça. Le monde, c'est des empires, ou des rhétoriques et des actions impériales, les Américains, les Chinois, des grandes puissances émergentes l'un des d'autres, le commerce est dur, la géopolitique est de retour avec la guerre sur le continent, etc., etc. Et nous, on vit encore les derniers dans un moment libéral, euphorique, géopolitique ou politique, on croit au libéralisme économique et politique, on est un peu les derniers. Donc il faut qu'on fasse notre révolution en effet, mais c'est pas facile, parce que les Américains et nous-mêmes étaient très contents d'être sous parapluie, d'être en quelque sorte des adolescents que les grandes personnes protégeaient d'un monde obscur et difficile. Et aujourd'hui, avec l'Ukraine, avec la géopolitique qu'on connaît, avec les crises au Proche-Orient, avec le commerce qui est dur, on sait plus trop comment faire. Et donc il faut qu'on devienne un projet interne qui bascule vers l'externe, une politique étrangère, une politique de défense, une politique commerciale qui vise pas simplement à signer des accords commerciaux. On voit bien le décalage. Nous, on a envie de signer le Mercosur. Enfin, pas nous, Français, on est contre, mais la plupart des pays européens. Quand la question, c'est de savoir si on est capable de mettre des tarifs pour répliquer à la guerre commerciale américaine. Pour le dire en un mot sur ce sujet, il faut qu'on soit capable de ne pas tendre la joue quand on nous met une claque, mais de répliquer dans un premier temps. Donc, je suis très favorable à ce qu'on soit très ferme sur les taxes qu'on va mettre sur des produits américains, même symboliques, pour ensuite rentrer dans une négociation.
Mais dans le même temps, Clément Beaune, ce que vous décrivez là, on peut le résumer d'une formule, hein, le réveil stratégique ou le réveil géopolitique. Ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle, hein, la Commission européenne, la première à tenter de théoriser ce réveil stratégique. Alors pourquoi il ne naît pas lorsqu'il devrait naître, Céline Spector ?
Alors écoutez, je voudrais d'abord revenir sur le fait que ça fait en effet plusieurs années qu'on en parle. Alors à la fois dans les institutions, mais aussi...
Et c'était une révolution intellectuelle pour l'Europe.
Oui, mais parmi les philosophes, parmi les politiques, je voudrais citer simplement Luc Van Middelaar qui a donné ses leçons au Collège de France tout à fait remarquables sur le réveil géopolitique de l'Europe, où il explique qu'on va devoir passer de la politique de la règle à la politique de l'événement. Il va falloir qu'on passe d'une réflexion sur le chronos, c'est-à-dire finalement le support de la chronologie des événements, à une réflexion sur le kairos, c'est-à-dire le moment opportun, ou encore le koros, l'espace abstrait des valeurs, et on doit passer au topos, c'est-à-dire l'espace incarné, le lieu concret des frontières.
Et toute la grammaire de la puissance.
Toute cette grammaire de la puissance, de la stratégie, du récit, du territoire, tout ça, avec la fin de la Pax Americana, ça fait quand même longtemps. Ces leçons datent de 2021, on est beaucoup à en avoir parlé après. On nous dit, on est dans un moment machiavélien, donc plus tellement qu'ancien, machiavélien, c'est-à-dire l'Europe réalise sa finitude, elle se rend compte de sa vulnérabilité, de sa contingence, elle s'aperçoit que ce qui se passe aux frontières est important, c'est pas seulement un espace universel de valeurs à géométrie variable, on est dans une nouvelle logique, effectivement, alors qui n'est pas hégémonique parce que l'Europe ne veut pas s'emparer de cette volonté de puissance qui lui a fait tant de mal, mais effectivement, la grammaire de la puissance est de retour. Alors après, ce qui se passe réellement dans les arènes politiques, c'est autre chose. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on est armé intellectuellement à défaut d'être armé militairement.
Est-ce que l'un des problèmes, Clément Beaune, c'est que tout simplement, l'Europe a une difficulté presque instrumentale à faire face à l'urgence, à réagir tout simplement à l'élection de Donald Trump et à ses saillies régulières?
Alors c'est paradoxal parce que c'est le cliché, mais c'est assez vrai, l'Europe agit et n'agit parfois que fortement et vite dans les crises. On l'a vécu récemment sur une autre menace, qui était une menace sanitaire, la crise Covid, où à la fois sur le plan sanitaire lui-même, c'est-à-dire produire des vaccins, les distribuer à tous les Européens, on l'a fait ensemble. Et je pense qu'on s'est mieux protégé en le faisant ensemble. Et puis sur le plan économique, on a fait un plan de relance. C'était pas gagné, il a été extrêmement ambitieux et puissant. Et l'Europe a montré son meilleur visage, c'est-à-dire qu'on a réussi à mettre 27 chefs d'État et de gouvernement d'accord sur la base de propositions franco-allemandes, comme à la grande époque, et d'avancer très fort face à une crise et sans l'accélération du temps qu'a été la crise Covid à ce moment-là, on n'aurait évidemment pas construit une politique sanitaire européenne ou une politique de relance économique contre tous nos dogmes au niveau européen. Sur le plan militaire, c'est plus compliqué, d'abord parce que, objectivement, on part de beaucoup plus loin, que les différences entre pays européens sont historiquement, une histoire récente évidemment de l'après-guerre, extrêmement opposées ou différentes. L'Allemagne a une armée parlementaire, l'idée même d'intervention extérieure, même si elle a évolué depuis 20 ans, est encore difficile à concevoir pour les Allemands, et on voit bien d'ailleurs que le Parti social-démocrate allemand, alors que les Verts d'ailleurs sont plutôt plus, non pas bellicistes, mais enfin prêts à être géopolitiques, on va dire, a encore beaucoup de réticences à soutenir l'Ukraine sur le plan militaire, etc. Alors que la France, pour nous c'est pas facile, mais je veux dire, l'idée d'intervention extérieure, l'idée d'une puissance militaire est beaucoup plus ancrée dans notre histoire, on n'y a pas renoncé. Et quand vous mettez en plus les différents rapports aux États-Unis ou à la Chine dans les différentes capitales européennes, de Mme Meloni à M. Orban, en passant par l'Espagne ou la Pologne, on a une grammaire, une cartographie qui est évidemment un peu éclatée. Là où je suis un peu, donc parlons le réveil européen, je pense qu'il est possible, mais qu'il n'est pas automatique. Je ne fais pas du tout partie de ceux, tout en étant pro-européen, qui pensent que parce qu'il y a Trump, et parce qu'on est secoué par Trump, on va réagir efficacement, de manière unie et ferme, spontanément. Ça se construit. Et comme souvent en Europe, c'est une question de méthode et d'initiative. Donc moi, je plaide pour que la France, notamment, dès qu'il y aura un nouveau gouvernement allemand, le plus vite possible, insiste beaucoup auprès de ses partenaires, d'abord pour qu'on mette des taxes commerciales en réplique aux taxes américaines, sinon on aura une faiblesse européenne dramatique, qu'on accélère nos investissements militaires. Et c'est pas rien passé quand même ces dernières années. On a créé un budget européen de défense, et en Ukraine même, on est quand même le premier soutien financier et civil, et un peu militaire aussi, mais le premier soutien financier et civil à l'Ukraine. Ça a aidé pendant la guerre, et sans l'Union européenne, bien sûr, il y avait les États-Unis, mais on n'aurait pas réussi à faire tenir l'Ukraine aussi longtemps. Et c'est pas intuitif quand même que l'Europe arrive à livrer des munitions, des équipements et à financer tout ça en partie sur le budget européen. Maintenant, on est dans une époque où il faut considérablement accélérer. Ça se fera pas depuis Bruxelles spontanément, même si je pense que Mme von der Leyen a quelques outils entre les mains. Donc il faut que ça soit une initiative, classiquement, si je puis dire, franco-allemande. Et j'ajouterais deux acteurs qui me paraissent très importants. La Pologne, parce qu'elle a la présidence du Conseil de l'Union européenne pendant les 6 prochains mois, jusqu'à l'été, ça sera crucial. Et parce qu'il y a un Premier ministre polonais qui, évidemment, est atlantiste par sa géopolitique, son histoire, mais qui a envie de doter l'Europe de moyens supplémentaires en matière militaire. Il faut saisir cette occasion. Et puis le Royaume-Uni, ça paraît paradoxal, mais il est en dehors de l'Union européenne, comme on sait aujourd'hui, mais il est dans le même bateau que nous. Il va être sûrement frappé par les taxes commerciales comme l'Union européenne, et c'est un soutien à notre politique de sécurité en Europe et en Ukraine en particulier. Donc il faut aussi très rapidement arriver à coordonner nos actions d'équipement, de production supplémentaire, de soutien notamment à l'Ukraine, mais plus largement avec le Royaume-Uni.
Et est-ce que dans le même temps, Céline Spector, l'Europe n'est pas victime d'une grande blessure, d'une grande faille narcissique qu'on pourrait diviser en deux? Il y a d'abord ce déclin relatif qu'on a du mal à accepter, qu'on a du mal à penser. Il y a aussi le fait que l'Atlantique, ça a été dit par Clément Beaune, n'est plus au centre du monde. Désormais, c'est l'Indo-Pacifique, ces relations entre les États-Unis et la Chine qui sont au centre de l'ensemble des relations internationales.
Oui, il faut qu'on prenne acte que nous sommes provincialisés. Donc ça fait déjà un certain temps qu'on parle de cette idée qu'il faut provincialiser l'Europe. D'habitude, on l'emploie en disant que l'Europe doit renoncer effectivement à tout son passé colonial et à tout ce qui continue à infuser, disons, notamment dans les sciences humaines, de ce passé colonial. je pense que ça va plus loin. Il faut qu'on accepte effectivement qu'on est un peu au bord de l'histoire. Hein, quand on regarde par exemple Fernand Braudel, hein, on sait les économies mondes, ça varie. Hein, voilà, il faut s'y faire. Mais c'est pas pour autant, je pense, qu'il faut être décliniste. Je crois qu'on a construit, c'est moi là où je suis moi aussi européenne, hein, je crois qu'on a construit un modèle inouï, à la fois politiquement, économiquement et culturellement. Et je pense que ce serait une très grave erreur de se reléguer soi-même en disant oui, on n'est pas puissant, on n'a pas une armée européenne. Parce que même, il y a d'autres choses hein, qui peut-être dans 5 ans réapparaîtront comme importantes. Effectivement, le fait qu'on ait par exemple eu le Green Deal sous la mandature précédente, c'était quelque chose d'extrêmement ambitieux. C'était absolument, moi je trouve, un projet extrêmement enthousiasmant. Qui,
le Green
malheureusement,
Deal, on rappelle que c'est ce grand projet d'investissement en faveur de l'économie verte.
Voilà, le pacte vert qui a de très nombreuses déclinaisons de l'agriculture à l'industrie, etc. Mais c'est en fait une révolution de nos modèles de société, une transition écologique qui aussi est censée être une transition juste. Donc c'est un changement de modèle de société. Là, malheureusement, on est obligé de le mettre un peu sous le boisseau parce que ça demande des financements énormes et que là, on va devoir investir dans la défense. Donc moi, je vois ça un peu comme un dilemme existentiel. L'Europe, elle est face à ce dilemme. Elle était partie pour financer la transition écologique et énergétique. Et là, elle va devoir financer, en fait, sa propre défense. Et à mes yeux, c'est une régression terrible, hein, parce qu'effectivement, on prend du retard. Et en même temps, je crois qu'il ne faut pas, encore une fois, se diminuer, parce qu'on a un très beau projet et qu'on aurait pu le mener à bien de manière relativement harmonieuse avec les États-Unis s'il n'était pas trop tombé dans l'escarcelle de Trump.
C'est un vrai dilemme, ça, Clément Beaune. Écologie ou défense, l'Europe ne pourrait pas budgétairement financer l'un et l'autre, investir dans les deux domaines à la fois ?
Alors sur ce thème, si je puis dire, je crois, ou en même temps européen, on peut le faire. Parce que d'abord, l'Union européenne, en tant que puissance commune, à l'échelle macro des 27, c'est 450 millions d'habitants, est d'abord la première puissance commerciale du monde. Et sur le plan budgétaire, la France est une situation difficile, mais a des marges collectives importantes. C'est-à-dire que ce n'est pas un continent qui est surendetté, c'est un continent qui a beaucoup d'épargne. Parfois, d'ailleurs, c'est un problème d'excès d'épargne qui n'est pas investi en Europe.
On a du mal à aller la chercher,
bien
cette
sûr.
Épargne. Hein.
Donc, je pense que, de toute façon, on ne pourra pas choisir. Et ça serait une erreur entre notre défense et la transition écologique et peut-être quelques autres priorités comme la transition ou la révolution numérique. Et l'Europe a les moyens d'agir. Moi, je suis totalement d'accord sur l'idée qu'il ne faut pas qu'on tire de ce moment difficile et de la brutalité trumpienne deux conséquences qui seraient une erreur. D'abord, l'idée qu'on est foutu, en quelque sorte, et qu'on n'a qu'à regarder passer la puissance américaine-chinoise en courbant les Chines, en quelque sorte. Et la deuxième erreur serait de dire que finalement, si on veut se muscler dans ce monde de carnivores, comme le président et d'autres l'ont dit récemment, il faudrait abandonner ce qui fait notre spécificité et nos valeurs. Moi, je rêve pas qu'on devienne une forme de continent du Trumpisme light. C'est pas ça notre destin. Et effectivement, il y a des choses qui sont des handicaps à certains égards. En tant que continent, politiquement, on décide à 27, c'est vrai, c'est plus long, parce qu'on est 27 démocraties avec nos histoires, nos particularités, et je crois qu'on n'a pas envie de les lâcher. Je note au passage qu'il y a toujours un paradoxe chez ceux qui se déclarent souverainistes, souvent anti-européens, c'est-à-dire qu'ils reprochent à l'Union européenne d'être faible, et en même temps, ils ne veulent pas la doter d'un certain nombre d'outils de décision, parfois fédéraux ou communs, qui permettraient d'être plus forts, d'accélérer. On ne peut pas reprocher à l'Union européenne d'être faible et pas vouloir qu'elle mène une politique commerciale à son niveau pour répliquer ensemble, parce que si on le fait séparément, on va se faire manger, à Donald Trump face aux taxes. Mais j'ai un peu l'impression qu'on est le lapin dans les phares, si je puis dire. On regarde Trump avec un mélange d'effroi et de fascination, en se demandant à quelle sauce on va être mangé. Je prends juste un exemple. Sur le plan militaire, pour changer du domaine commercial, on attend en quelque sorte que Donald Trump nous donne la facture. On se demande s'il va nous dire est-ce qu'il faut passer à 5% ou 3% ou 4% de PIB consacré aux dépenses militaires dans son référentiel à lui, puis après on négociera.
Vous parlez des règles qu'il voudrait instituer pour pouvoir,
oui,
pour que les États-Unis restent dans l'OTAN.
Voilà, aujourd'hui, on verra ce qu'il dit d'ailleurs, on ne sait pas, mais aujourd'hui il y a une règle
qui a été, 5%.
Voilà, il y a une règle qui a été actée en commun il y a quelques années à un sommet de l'OTAN qui est
2%,
tout le monde n'y est
pas.
Et
Trump dit 5%.
Et Trump maintenant dit 5%, mais peut-être que demain il dira 7, ou peut-être qu'il dira 4, ou peut-être qu'il négociera des choses, mais c'est pas lui de nous dire ce qu'on pense être notre bon effort militaire. Bien sûr, on aura un moment difficile avec lui.
Les États-Unis sont quand même le premier financeur de l'OTAN et le seul pays, peut-être, qui tienne véritablement cette organisation.
Je suis d'accord, et vous avez raison. Il faudra qu'on soit là-dessus cohérent, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas reprocher à Trump de nous lâcher et pas vouloir investir plus dans notre défense. Là, on aura, d'une certaine façon, là, il faut qu'on soit un peu trumpien, c'est-à-dire qu'on dépense plus en matière de défense, sinon on n'est pas crédible. Ce que je veux dire, c'est que surtout, on a l'impression qu'on est en réaction et qu'on se positionne par rapport à ce que Washington nous dira pour le meilleur ou pour le pire. Être une puissance, c'est, pardon de le dire aussi simplement, penser par nous-mêmes. Quel est notre projet en matière de défense ? Quel est notre projet en matière écologique ? Juste sur le Green Deal, aujourd'hui, on voit bien que c'est l'élection de Donald Trump car ouvert largement le débat sur les normes. Et on dit bah, il faut déréguler, débureaucratiser, etc. Parce qu'il y a Donald Trump. Bah, non, ce débat, on doit le définir pour nous-mêmes, dans le monde qui n'a pas attendu Donald Trump.
Je voudrais qu'on interroge également la forme de l'Europe, la forme politique de l'Europe. Est-ce qu'elle est adaptée à ce monde nouveau, aux enjeux aussi auxquels nous devons faire face, face à Donald Trump? Vous aviez parlé, Céline Spector, dans cet ouvrage intitulé « Nos démos », d'une république fédérative. Est-ce que cette réflexion vous semble toujours pertinente? Et rappelez-nous de quoi il s'agit précisément.
Alors, j'utilisais le concept de république fédérative que j'emprunte à Montesquieu, donc de l'esprit des lois au XVIIIe siècle. Montesquieu, au livre 9 de cet ouvrage, définit cette nouvelle forme politique qui aurait une sorte de dignité à part entière, comme une association, notamment des démocraties, lorsqu'elles se mettent d'accord pour résister aux agressions des empires. Donc on est d'abord dans un cadre géopolitique, c'est pas simplement une alliance, ça peut comporter une forme d'intégration politique, économique, parfois militaire.
C'est pas une fédération.
Alors, c'est-à-dire qu'à l'époque, le mot fédération ou le terme confédération n'était pas à proprement parler distingué de manière aussi rigoureuse qu'au 19e, au 20e siècle ou aujourd'hui. Ce qui fait que, en fait, l'Europe aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse, est dans un modèle politique sui generis, unique en son genre. Ça n'est ni une confédération d'États souverains, ni une fédération, un État fédéral à proprement parler. Moi, ce que je défends avec d'autres, c'est la République fédérative, c'est-à-dire une intégration politique plus forte qui nous permette justement de ne pas être dans cette situation un petit peu délicate où on se trouve aujourd'hui avec effectivement des États-nations qui essayent de tirer à hue et à dia, l'Italie de Giorgia Meloni qui est plus trumpiste, Viktor Orban qui se tourne vers la Russie. Il faut qu'on réussisse à avoir une politique plus intégrée et pour cela, il faut qu'on renforce nos institutions centrales. Je ne suis pas pour un État fédéral complet, par exemple, je suis pour le droit de veto au Conseil dans un certain nombre de cas et je suis aussi pour le droit de sortie, comme le Brexit a montré, ça peut être parfois... en tout cas légitime, droit de sécession. Mais en revanche, je suis très favorable à ce qu'on renforce notre intégration. Et il y a eu des propositions très intéressantes qui ont été mises sur la table par le groupe des 12, un ensemble d'universitaires, de politiques franco-allemands, qui ont fait des propositions très intéressantes de réforme des institutions. Alors à l'époque, on parlait surtout de l'élargissement. Donc là, c'est un petit peu passé un peu backstage, mais... Aujourd'hui, on peut se ressaisir de ces propositions pour se demander comment améliorer le fonctionnement de nos institutions. Et je pense que c'est crucial pour éviter effectivement qu'on ait un Conseil européen distendu, une commission qui aujourd'hui a du mal à imposer aussi sa volonté avec un Parlement qui est quand même de droite et d'extrême droite, majoritairement.
Clément Beaune, sans vouloir casser les équilibres fins de ce triumvirat Parlement, Conseil, Commission, est-ce qu'il faut, selon vous, revoir aussi en profondeur l'architecture institutionnelle de l'Europe pour justement permettre de faire face aussi à cette question de l'urgence politique?
Alors, je suis un peu plus sceptique parce que je partage l'idée qu'il faudrait qu'on ajuste ou qu'on change certains aspects institutionnels pour être plus efficace. Mais si on rentre dans le concret, ça voudrait dire qu'on lance, comme ça a été beaucoup le cas d'ailleurs dans les 80-90, mais on a un peu perdu cette dynamique, notamment depuis les référendums français et néerlandais contre la Constitution européenne en 2005, d'avoir des conférences diplomatiques qui font des propositions ambitieuses et ensuite qui sont ratifiées par l'ensemble des États membres, parce que c'est ça un changement institutionnel. Je pense que l'espace pour le faire dans les années qui viennent, même s'il faudra y venir, est très faible et ne correspond pas à l'urgence qu'on vit sur certains sujets. Alors l'un n'empêche pas l'autre, évidemment. Moi, j'ai une proposition que j'évoque dans mon livre notamment, sur certains sujets, puisqu'on a beaucoup parlé de la question économique et qui est liée à la question de la puissance. Une partie de notre décrochage global vient du fait qu'on est, sur le plan technologique et économique, très décroché. On fait le constat depuis longtemps, mais par rapport aux États-Unis, de manière massive, par rapport
à... Notamment le rapport Draghi et les conséquences sur l'investissement.
Le rapport Draghi qui fait des propositions très concrètes, donc on ne va pas en demander un énième, et assez largement partagé, vu le succès relatif qu'il a eu dans les différentes capitales, pour investir plus au niveau européen, pour avoir un nouvel emprunt, pour mobiliser l'épargne européenne sur... des filières prioritaires comme la défense ou comme l'écologie. Bon, qu'est-ce qu'on veut faire pour mettre en œuvre le rapport Draghi? Il peut refaire un 8e tour des capitales européennes. Bon, ça n'a pas changé grand-chose. On pourrait, par exemple, imaginer, comme on l'a fait aux grandes heures de la construction européenne, une conférence au printemps prochain, en France par exemple, mais ailleurs, présidée par Mario Draghi, où il y aurait un représentant personnel de chaque chef d'État et de gouvernement. On s'enferme quelques semaines et on dit, quelle est la bonne taille du budget européen? Quelle est la bonne politique commerciale européenne? Quelle est la bonne politique de concurrence? Est-ce qu'il ne faut pas changer quelques petites choses, soit dans le traité, soit dans la pratique? Est-ce qu'il faut un nouveau grand emprunt européen pour financer, même les Baltes y sont favorables maintenant, nos dépenses de défense? Ça peut se faire en quelques semaines, parce qu'après, c'est des décisions législatives européennes. Mais
Mais ça, ces représentants enfermés dans un salon, c'est un processus démocratique et moderne.
Après, attention, ils confisquent pas la démocratie. Enfin, à un moment donné, il faut se retrouver dans une pièce pour travailler. Et ensuite, il y aura un débat parlementaire dans chaque pays ou au niveau du Parlement européen. Ce que je veux dire, c'est qu'on l'a fait au moment du plan de relance européen. Ça a été les chefs d'État et de gouvernement dans une pièce qu'on dit 750 milliards d'euros de plan de relance européen après une proposition franco-allemande et de la Commission. Puis ensuite, l'Assemblée nationale et le Sénat en France, comme tous leurs collègues parlements, ont ratifié. Bon. Mais je pense que la démocratie n'empêche pas la rapidité et de bousculer un peu nos habitudes. Et il faut le faire sur des sujets sur lesquels on n'a pas l'habitude de le faire. Et on est capable de le faire quand l'urgence est avérée, le Covid que j'évoquais, ou la crise de l'euro. Ce que j'aimerais, c'est qu'à un moment d'urgence réelle, mais un peu moins visible ou un peu plus diffuse qu'est l'élection de Trump, en réalité, pour s'en saisir comme une opportunité, on arrive à faire ça sur le plan européen. Une sorte de conférence Draghi sur les questions économiques, technologiques, budgétaires. Je trouve que ça aurait beaucoup de gueule, si je peux dire, mais de sens, surtout, dans les mois qui viennent. Et ça, ça n'a rien d'impossible. Mais on en revient souvent à l'énergie européenne. On est tous fascinés par le fait que Trump y signe, je crois, 42 executive orders dans les premiers jours. Il y a beaucoup de cinéma et de show dans tout ça. Mais j'aimerais que, à notre manière, je suis d'accord avec Céline Spector, sans copier Donald Trump, loin de là, à notre manière, non hégémonique, délibérative, on ait de l'action européenne un peu vive, un peu vitale, qu'on démontre aussi à nos concitoyens. Sinon, on donnera l'impression que c'est Trump qui a raison.
C'est l'inspecteur, hein, c'est la critique qui a été adressée en creux par Clément Beaune à votre proposition. Il y a une impossibilité pratique aujourd'hui à changer, à transformer les institutions européennes.
Alors, j'ai peut-être pas été suffisamment claire. En fait, il y a un modèle de la République fédérative. Après, il y a la question de savoir si il est opportun aujourd'hui, si on peut le mettre en œuvre aujourd'hui. Et je suis beaucoup plus pessimiste que quand mon livre est sorti en 2021 sur la possibilité de fait que cette réforme des traités ait lieu, qu'on réussisse à trouver un consensus suffisant. Donc, je suis pas du tout naïve et je pense que l'Europe est aussi peut-être en train de réaliser qu'elle a aussi ses illusions perdues et que effectivement, le modèle fédéral, il était très vif après la Seconde Guerre mondiale, notamment chez les Italiens, qui se sont battus contre le fascisme de Mussolini, qui ont proposé le manifeste de Ventotene en 1941 en disant « c'est le nationalisme qui a créé la barbarie ». Il y a eu un moment fédéraliste très vif qui a rejoint le fédéralisme en France, etc. On a eu un grand mouvement populaire aussi et qui avait la légitimité de la résistance. Aujourd'hui, on n'est plus dans un moment d'incandescence révolutionnaire en ce sens-là. Si révolution il y a, elle est réactionnaire et conservatrice. Et du coup, le fédéralisme n'a pas les forces sociales et politiques, il n'a pas l'hégémonie culturelle du tout. Et donc, c'est un courant très minoritaire. Et particulièrement en France, où en fait, il est vraiment relégué, on pourrait dire, sur les marges. Alors, c'est pas tout à fait le cas en Italie, c'est moins le cas évidemment en Allemagne, dans des États qui n'ont pas la même histoire de la centralisation, de la souveraineté une indivisible et absolue que la France, avec un modèle rousseauiste jacobin très fort. Mais je pense pas effectivement que ce modèle va s'appliquer demain, si c'est ça la question. Malheureusement, je crois pas que ça va se produire.
Pour continuer de faire le suivi de la pertinence des concepts à travers le temps et les années, Clément Beaune, vous avez été l'un des promoteurs auprès d'Emmanuel Macron de ce concept de souveraineté européenne, à l'heure où Donald Trump a des vues sur une partie de l'Europe, un territoire en particulier qui est le Groenland. Est-ce que ce concept-là, celui de souveraineté européenne, a du sens et a plus de sens que jamais?
Oui, je crois. Alors évidemment, en étant un peu un des auteurs, je suis forcément subjectif, mais profondément, je le crois.
Non, c'est l'inspecteur elle-même est revenue sur son concept.
Oui, oui, c'est vrai.
Peut-être. Vous pouvez en faire de même.
Peut-être qu'il y a plus de recul critique que pour moi. Non, mais blague à part, je pense que... Alors, d'abord, c'était quoi le concept de souveraineté européenne? C'était un raccourci assumé, si je puis dire. Évidemment, il ne s'agissait pas sur un plan rigoureux, philosophique, de confondre ou de diluer la souveraineté nationale, on a parfois reproché cela, dans les grandes institutions européennes ou de transférer la souveraineté de Paris à Bruxelles, évidemment. Il s'agissait de dire, si on veut que la souveraineté nationale, d'ailleurs, c'est-à-dire la capacité à défendre nos intérêts et nos valeurs, de Français comme d'Allemands, comme d'Italiens, etc., qui sont souvent propres et communs, eh bien, il faut renforcer le projet européen. Et il faut que l'Europe s'affirme sans perdre la coopération, aussi comme une puissance. C'est la réconciliation de la coopération européenne qui est quand même, on le disait avec l'inspecteur, le grand succès des 70 dernières années qu'il ne faut pas jeter avec l'eau du bain, et de réaffirmer une logique de puissance en renforçant l'Union européenne comme un tout sur le plan de la défense, sur le plan du commerce, sur le plan de l'investissement dans la technologie, etc. Ça, j'y crois plus que jamais, effectivement. Et d'ailleurs, ce concept, après, il peut avoir des variations, mais l'idée de souveraineté, l'idée d'autonomie, on renvoie un peu à la même chose, finalement, a beaucoup progressé dans différentes capitales. Il a progressé dans les outils aussi, hein, puisqu'on parlait de la boîte à outils européenne tout à l'heure. Le plan de relance économique en est un exemple, il produit encore ses effets. Le budget de défense européen est une réalité, certes embryonnaire, mais qui existe quand même, et c'est une révolution conceptuelle et pratique. Donc on ne part pas de rien, il ne s'est pas rien passé ces dernières années, depuis le discours de la Sorbonne côté français, dans la commission von der Leyen et en réaction à Trump 1. Mais il faut qu'on accélère considérablement, et je crois que cette notion de souveraineté européenne est pertinente encore. Je prends juste l'exemple du Groenland. Moi, j'étais quand même honnêtement assez sidéré que dans les heures qui ont suivi les déclarations de Donald Trump, il faut quand même prendre au sérieux toujours sur ces sujets-là, il n'y ait pas eu une déclaration de la Commission européenne, de la haute représentante de l'Union européenne, etc., pour dire, nous, Européens, on parle quand même d'un territoire géographique.
Et pas physique. Une déclaration commune non plus des différents chefs d'État.
Alors, d'ailleurs, c'est intéressant, je ne donne pas de leçon parce que ce sont aux Danois de gérer d'abord, mais la première ministre danoise elle-même aurait dit à ses partenaires, ne soyez pas trop vocaux ou trop bruyants, parce qu'il ne faut pas provoquer davantage M. Trump. Enfin, il faut quand même qu'en tant qu'Européens, on soit capable de dire, et je me réjouis qu'on ait fini par le dire, notamment le président et notre ministre des Affaires étrangères, qu'on était prêt, y compris, à considérer l'option de présence de troupes françaises, européennes, sur le territoire du Groenland. Il le faut.
Céline Spector, comment vous analysez vous-même en tant que philosophe du politique ce concept-là, celui de souveraineté européenne? C'est une notion qui a du sens pour vous?
Alors oui, je dois le dire, je suis peut-être l'une des seules en philosophie politique à affirmer cela, en particulier en France, encore une fois. Mais justement, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de montrer que il y a plusieurs traditions de philosophie de la souveraineté. Donc il y a une grande tradition qui part de Jean Bodin, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, etc., qui est vraiment celle de la souveraineté une indivisible, inaliénable et absolue. Avec l'idée qu'en fait, on ne peut pas diviser, on ne peut pas partager la souveraineté, parce que sinon, on va avoir un conflit entre plusieurs souverainetés et donc finalement une dissolution de l'État, un risque finalement de désagrégation. En revanche, il y a depuis le XVIIe siècle une autre tradition qui remonte à des gens moins connus, Jean Barbeyrac, Jean-Jacques Burlamaqui, et qui passe surtout après Montesquieu aux États-Unis chez James Madison, Alexander Hamilton, qui est celle de la souveraineté. Partagée. Et c'est ça qui a donné lieu, par exemple, à la réflexion sur le fédéralisme américain, au moment en 1787 où, à Philadelphie, on réfléchit à la nouvelle constitution fédérale des États-Unis. Et on se dit, la confédération suffit plus, faisons une fédération. Qu'est-ce qu'on fait de la souveraineté? Les antifédéralistes nous disent, impossible de la diviser. Donc en fait, votre histoire de fédération, ça veut dire les États fédérés n'auront plus de pouvoir. Ce que répondent les fédéralistes, c'est pas vrai. C'est qu'en réalité, on peut très bien considérer que le peuple est l'unique titulaire, la source unique de la souveraineté, et qu'il délègue son pouvoir au niveau des États, et ensuite au niveau fédéral, tout l'art étant bien sûr de trouver la juste distribution des pouvoirs et des compétences entre ces deux niveaux.
Vous êtes d'accord avec Clément Beaune aussi lorsqu'il dit que d'un point de vue instrumental, du point de vue des dispositifs européens, on la voit naître peu à peu cette souveraineté européenne ?
Alors, sur le plan des faits, je pense par exemple que le vocable qui était notamment beaucoup utilisé par les Français de l'autonomie stratégique s'est largement développé dans plusieurs capitales européennes. C'est plus devenu un repoussoir. Le vocabulaire de la souveraineté était souvent vu comme une manière pour la France de projeter sa puissance à l'échelle européenne. Je crois que maintenant, on envisage les choses de manière un peu différente. Alors, quand les politiques utilisent le terme de souveraineté, ils ne l'utilisent pas comme les philosophes. Ce qu'ils veulent dire, c'est de l'autonomie, c'est-à-dire l'indépendance à l'égard des États-Unis en particulier, ou de la Chine ou d'autres grandes puissances. Ça veut dire relocaliser notre industrie, ça veut dire être plus, en quelque sorte, plus fort, plus indépendant. Bon, la souveraineté, c'est un peu plus que ça. Mais je pense qu'il peut y avoir un pont entre la philosophie et l'histoire, et c'est à mon avis ce qui est passionnant et ce sur quoi il faut travailler, c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'effectivement, une souveraineté européenne, c'est pas la dissolution des souverainetés nationales, qu'il peut y avoir un cœur régalien qui est conservé, disons, dans les États-nations, et que pour autant, on peut construire un niveau qui serait effectivement un niveau plus fédéral, même si le fédéralisme accompli n'est pas à l'horizon de l'histoire.
Un grand merci à vous deux de cette discussion. Clément Beaune, ancien ministre délégué chargé de l'Europe, le titre de votre nouvel ouvrage, je dirais malgré tout que la politique est belle. Le livre a paru hier aux éditions Stock. Céline Spector, vous êtes professeur des universités à Sorbonne Université. Je rappelle également le titre de votre livre paru en 2021, No Demos, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe. C'était aux éditions du Seuil. Merci encore à tous les deux.